Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger Chain 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, Chain 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam, azoul, bienvenue à vous sur les ondes de la radio algérienne, Radio Alger Chain 3. Nous sommes heureux d'être avec vous dans ce programme d'éveil au cœur de l'islam tous les vendredis à 5h et à 14h. Mais triste de passer à une nouvelle année dans les conditions actuelles que subissent les autres damnés de la terre. Nos frères palestiniens et soudanais se trouvent victimes de la haine, de l'intolérance et de la violence. Une crise humanitaire qui prend forme et s'installe dans ces deux pays musulmans qui sont en perte de dignité constante. Les exactions sur les populations civiles, les viols, les pillages et les massacres à caractère ethnique au Soudan, l'enfer a de nouveau trouvé une nouvelle demeure en terre musulmane de surcroît. Et à Gaza, dont la population continue de se déplacer après avoir vécu l'enfer de l'alliance sioniste chrétienne, parce que l'expression judéo-chrétienne est caduque aujourd'hui. Quand on lit l'histoire du royaume juif de Salomon et de David, le résultat était tout autre. Alors, l'OMS tire la sonnette d'alarme et Tedros Adhanom Ghebreyesus se dit extrêmement préoccupé par la propagation des maladies infectieuses à Gaza. L'on signale des infections des voies respiratoires, des cas de diarrhée, la gale, la variole, les infections cutanées, une liste interminable de maladies. Et depuis le 7 octobre 2023, l'on compte plus de 21 000 martyrs, plus de 56 000 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, des destructions massives des villes, une catastrophe innommable. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Shekat, nous sommes dans beaucoup de hadiths cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui-là, et vous allez nous le traduire et l'expliquer, Kamel Shekat, je pense qu'on est en plein dedans. Je rappelle à nos amis auditeurs que les dernières émissions de Au cœur de l'islam concernaient l'eschatologie musulmane et toutes les prédictions du prophète alayhi salatu wasalam et de ses frères messagers. Alors, commençons par ce hadith. روى أبو داود وأحمد صححه الحاكم وأقره الذهبي عن عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده كما شكت.
بلغ سي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كي نغل الحديث et qui dit qu'ils étaient chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quand il dit « inda rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam », ça veut dire qu'ils étaient à la mosquée, parce que la demeure même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à l'intérieur de la mosquée, le hujra. Et là, le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, se mit à parler des signes, cette tourmente qui concerne les signes avant-coureurs de leur dernière, le fitan, donc les épreuves, et il a cité une multitude de signes, et après cela, il a cité une épreuve dite « fitnatul ahlas ». Et là, les compagnons ont demandé, alors, qu'est-ce que l'ahlas ? Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « hiya harabun wa harbun, wa fi riwaya wa harabun ». Alors, c'est quoi l'ahlas? L'ahlas, c'est le pluriel de hils. Ça peut être en cuir, en tissu. C'est quelque chose que l'on met à l'arrière du chameau. Il a parlé d'une épreuve en employant ce terme. Ça veut dire que cette épreuve sera tellement persistante, elle durera tellement longtemps qu'elle aura pratiquement qu'elle serait à l'image de cet outil, je ne sais pas comment appeler cela, qu'on met justement derrière la monture du chameau. Dans le langage arabe, on dit waqisa'un yali dhahr al-ba'ir.
Une sorte de couverture.
C'est ça, oui. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves terribles. Alors, quand il dit harabun, al-harab, ça veut dire que il y aura tellement d'animosité entre les gens que les gens se fuiront les uns les autres. Yahrubu ba'dhum min ba'd. C'est pour ça qu'il a employé harab. Et quand il dit harab, dans la version que vous avez lue, vous l'avez lu avec harb. C'est ce qui est cité. Mais certains commentateurs de ce hadith ne parlent pas de harb, qui signifie guerre. Ils parlent de harab. Et le harab, c'est la perte de l'argent, des biens, la perte des proches, etc. Donc c'est vraiment des épreuves très très difficiles où les gens seront touchés dans ce qu'ils ont de plus proche, de plus précieux, de plus intime.
Pensez-vous que nous soyons dans cette phase, Kamal Chakat, ou nous sommes encore loin?
Ah là, je ne peux pas vous le dire, mais...
Harb, Harj, Qatl.
Oui, il y a beaucoup des signes que nous venons de citer. Nous sommes en train de les vivre,
hein, oui.
Tout simplement. Si vous voyez, par exemple, quand on parle justement de Harab, à l'heure actuelle, les gens de Gaza symbolisent la chose au plus haut point, mais oui. D'une manière que nul n'aurait soupçonné il y a à peine 2-3 mois. Donc les signes sont là. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de harj et marj.
Oui.
Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de tueries. Le crime deviendra institution, quelque chose de tout à fait normal. À telle enseigne que celui qui a été tué ne saura jamais pourquoi il a été tué. Celui qui a tué ne sait pas lui-même pourquoi il a commis un meurtre.
Est-ce qu'on pourrait inclure dans cette phase, Kamal Chakat, la grande période coloniale? Quand vous prenez le nombre de martyrs en Algérie, au Congo belge, 25 millions...
Cette période-là, je l'associerai beaucoup plus à ce fameux hadith qui dit « Yushiku an tada'a alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu ala qis'atiha ». Un temps viendra où les nations se pencheront sur vous comme se pencheraient des gens sur une grande assiette pour la manger, donc ou pour manger ce qu'elle contient. Là, c'est beaucoup plus, mais là nous sommes vraiment, je ne sais pas moi, dans les années 80, alors que nous étions, je parle pour ma génération, nul d'entre nous n'aurait pu soupçonner que des temps viendraient où l'on vivrait ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors ensuite, que dit le hadith ensuite ? Fitnatul ahlas qala hiya harabun wa harbun thumma fitnatus sarra. Fitnatus sarra. Ça veut dire que il y aura une période d'abondance, et c'est cité dans d'autres hadiths, une période d'abondance où les gens vivront pratiquement dans le faste, et c'est justement ce faste qui fera que les gens se détourneront de la voie de Dieu. Il y aura une période de propagation de paix et d'aisance. Dans un hadith, le messager de Dieu a signalé, indiqué que l'heure n'arrivera pas avant que l'homme ne sache que sa femme fera le voyage de l'Irak à la Mecque sans rien redouter. On parle ici de ce que nous appelons en langue arabe « qutta' al-turuq », donc les brigands de grand chemin. Et les gens n'auront peur de rien, à moins qu'un berger ait peur pour ses brebis du loup. Dans un autre hadith, le messager de Dieu a demandé une fois à Ali ibn Hatim, « Ali, as-tu déjà visité l'Hira ?»« Non, lui répondit-il, je n'ai pas vu cette ville, mais on m'a parlé d'elle. » Et le prophète lui dit, « Si tu vis longtemps, tu verras la femme faire le voyage seule entre l'Hira et la Mecque pour y venir accomplir la circumambulation, tawaf, autour de la Kaaba, ne redoutant qu'Allah. À cette époque, donc, il y aura une surabondance d'argent, la justice sera répandue à la place de l'injustice, On dit, certains disent que ce sera à l'époque du Mahdi, le Mahdi al-Muntadar, dont les musulmans attendent la venue. Et ce hadith que nous sommes en train d'étudier et qui parle de Sarra, apparemment Sarra, c'est-à-dire l'aisance, l'abondance, la quiétude, ça concerne cette période.
Mais Kamal Shakat, Fitnat Sarra, il y a une suite dans l'explication de Fitnat Sarra. Il parle de la source de cette fitna. Un homme de la maison d'un descendant du prophète, alayhi salatu wa salam.
Oui. Dakhanouha min tahti qadami.
Min tahti qadami radulin min ahli bayti yaz'umu annahu minni.
Oui. Alors là, nous avons deux interprétations. Nous avons parlé de la première. Parmi les signes avant-coureurs de leur dernière, et qu'il viendra un moment où tout sera conforme au décret de Dieu, les gens vivront dans le bonheur le plus absolu, et nous savons qu'après cette période, l'heure dernière ne surviendra que sur Shirar al-Khalq, la lie de la création ou des créatures. Sarra, quand on utilise le mot Sarra, ça veut dire l'abondance, ce qui fait plaisir aux gens, la bonne santé, la richesse, etc. Dans ce hadith, pourquoi le messager de Dieu, alayhi salam, parle d'épreuve? Parce que il y a une raison à ce que les gens n'est plus de problème sur le plan moral, c'est le fait de s'adonner à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est interdit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de dakhan,
insister sur la source de cette fitna
oui.
Sarra.
Cette épreuve sera due à l'apparition d'un homme qui prétendra être de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaz'umu annahu minni. Cette personnalité dira qu'elle est du clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors qu'il ne fait pas du tout partie des proches ou des descendants du messager de Dieu alayhi salatu wasalam.
Wa innama awliya'il muttaqun.
Oui, même le verset innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salih, quand Dieu s'adresse à Noé alayhi salam. Donc cet homme qui se bâtira une légitimité en parlant de sa proximité généalogique du messager de Dieu alayhi salatu wasalam, ou en prétendant qu'il est sur sa voie, ne l'est pas du tout. Et puis donc après cette grande période de déviation, les gens se réuniront autour d'un homme. Et à ce moment-là, les gens se tourneront ou se réuniront autour d'un homme qui établira la justice, selon les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela viendra une autre épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de fitnatud duhayma, bidam il fatah. Alors, quand on parle de dahma ou bien sauda, les dam ayl fitnatul adma wa tammatul amya, comme disent les commentateurs de ce hadith. C'est-à-dire qu'il y aura une épreuve. Quand nous parlons de dahma, nous parlons de la plèbe, nous parlons des petites gens en quelque sorte. Et là, c'est donc.
Sans péjoration, Kamal Shakat.
Oui, oui, non, mais ça veut dire que. Et je suis désolé de le dire, mais nous l'avons vécu dans toutes les sociétés arabes. Autant pendant ce qui a été baptisé Rabi al-Arabi, qui n'a jamais pendu ne serait-ce qu'une seule fleur, et nous l'avons vu aussi pendant ce que nous avons baptisé ici en Algérie, le Hirak. Il y avait des gens qui faisaient normalement partie de l'élite, qui passaient dans différentes chaînes et qui disaient « Sha'bu yurid, le Hirak ou yurid ». Normalement, c'est le contraire qui aurait dû se produire. C'est toi qui fais office de théoricien, c'est toi qui fais office de philosophe ou de penseur. C'est à toi de donner à l'ensemble de la population la marche à suivre. Tu n'es pas censé venir dans une chaîne satellitaire pour dire « Oui, mais les gens veulent ceci, les gens veulent cela ». Ça ne marche pas. Quand on parle de dahma, nous sommes dans le chaos, nous sommes dans ce que nous appelons en langue arabe le fawda, l'anarchie. Mais si on revient un peu en arrière et quand on analyse bien ce qui a été baptisé Rabi al-Arabi, c'est ce que nous allons voir. Donc c'est tout le monde qui surfe sur une vague, c'est tout le monde qui fait de l'opportunisme, Et c'est comme ça que ça a marché.
Kamashakat, à ce hadith, il y a beaucoup d'autres hadiths connus, reconnus, d'autres complètement écartés, mis de côté par certains spécialistes. Vous avez par exemple ces hadiths dans le livre de Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hamad. Nu'aym ibn Hamad qui a été un des maîtres incontournables de Bukhari. Oui. Alors, dans le chapitre des Fitan de la fin des temps, vous avez ce hadith numéro 87. حدثنا يحيى بن سعيد العطار حدثنا الحجاج رجل منا عن الوليد بن عياش قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذركم سبع فتن تكون بعدي فتنة تقبل من المدينة
donc une épreuve qui vient de Médine
وفتنة بمكة
une autre à la Mecque
وفتنة تقبل من اليمن
Oui.
وفتنة تقبل من الشام وفتنة تقبل من المشرق وفتنة من قبل المغرب وفتنة من بطن الشام وهي فتنة السفياني. Et vous avez aussi un autre hadith, le 88e. حدثنا ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فتن تكون بعدي الأولى الأولى تسفك فيها الدماء والثانية يستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج والرابعة عمياء صماء تعرك فيها أمتي عرك الأديم.
Alors dans la première là, ce hadith est plus intéressant. Bon, je dis plus intéressant dans la mesure où il décrit ce que nous sommes en train de vivre. Alors il parle de quatre épreuves. أربع فتن تكون بعدي. الأولى تسفك فيها الدماء. Nous pouvons aisément penser à ce qui s'est passé entre les Ma'arakat al-Jamal, etc., entre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui a résulté justement de cette épreuve. D'accord? L'apparition des Khawarij, l'apparition du chiisme, etc.
Le décès de beaucoup de compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam.
Absolument. Ensuite, Taniyatu yustahallu fiha ad-dima'u wal-amwal. Ça veut dire que non seulement on va tuer, mais on va spolier les gens, on va s'approprier leurs biens.
Karbala.
Pas forcément. Je pense beaucoup plus à ce qui s'est produit par la suite. C'est-à-dire là, c'est beaucoup plus. Je verrais beaucoup plus les Mongols, par exemple, parce que là, ça a été vraiment. C'était ça. C'était la spoliation. Thalithatu yustahallu fiha ad-dima'u wal-amwalu wal-furuj. Ça veut dire que non seulement on va tuer les gens, on va s'approprier leurs biens, mais aussi quand il dit « tustahallu al-furuj », ça veut dire que ces guerres ou ces épreuves seront caractérisées par les viols. Dans l'histoire moderne, nous avons vu cela durant la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement après l'assaut de Berlin. Nous n'avons d'autre choix que de dire la vérité telle qu'elle se présente. Il y a eu beaucoup, beaucoup de viols qui ont été commis sur les Allemandes, par tous les alliés, hein, par tous. Les Occidentaux vous disent que c'est les Russes beaucoup plus qui ont fait ça, mais c'est faux, tout le monde l'a fait. Nous l'avons vu aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors de l'épreuve, ou je ne sais comment appeler cela, avec Sarajevo, l'Albanie, etc. Ouais. Et c'est des Serbes. Les Serbes sont des
sous la protection des casques bleus de l'ONU.
Oui, bien sûr. Et c'est non, mais cette tendance du viol, les judéo-chrétiens, comme ils se plaisent à s'appeler, puisent cela de l'Ancien Testament. Hein, c'est-à-dire que tout le monde passe son temps à parler de l'islam. Oui, nous avons des versets sanguinaires, nous avons ceci, etc. Mais bon, personne ne lit la Bible, malheureusement. Et il parle ensuite de la quatrième, Amya ou Samma ou Tu'araku fiha ummati arkal adim. Quand il dit Amya ou Samma, ça veut dire qu'elle est sournoise. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, je pense, puisque nous avons des gens sur le plan, bon, alors il y a de la contestation. Et cette contestation, c'est le terreau, c'est le terrain favori des opportunistes, de ceux qui ne pensent qu'à s'enrichir sur le dos des autres. Et par exemple, vous avez dans beaucoup de pays, vous avez des dissidents qui passent leur temps à parler de période de transition. Une transition, c'est une période de vide. Et les expériences de certains pays ont démontré de manière on ne peut plus claire qu'une transition, ça ne peut que conduire un pays et un peuple vers la catastrophe, vers le chaos. Et malgré ça, ces gens-là passent leur temps à parler de transition, de changement, de je ne sais quoi. Et cette crise, quand le prophète alayhi salatu salam parle de fitna amya samma, ça veut dire que les gens vont se détourner de la voie de Dieu, mais de manière très très soft. Si vous voyez, pour ceux qui savent ce que signifie la soft power, que les Américains, les Occidentaux de manière générale, mais à leur tête les Britanniques et les Américains utilisent pour créer justement des conflits, des guerres, etc. Nous y sommes, mais alors plein pied. Sur le plan religieux, par exemple, nous avons vu ces 20 dernières années l'émergence d'un certain nombre d'idées, de courants, qui sont tout aussi non conformes à l'esprit de l'islam les uns que les autres. Et chacun de ces courants se dit le seul viable, valable, qui soit proche du livre de Dieu. Vous avez, par exemple, nous allons citer deux extrêmes. Nous avons d'un côté le wahhabisme, qui est un islam judaïsé, créé de toutes pièces par les Britanniques et à la tête duquel on a placé une personnalité qui a été traitée de zindir par les savants de son époque et qui n'est autre que Mohammed ben Abdel Wahhab. Et d'un autre côté, vous avez des gens comme Shahrour, par exemple, qui a donné à cette tendance qui est celle des coranistes toute sa dimension, en faisant fi de tout ce qui a trait à la tradition prophétique. On ne va utiliser que le Coran comme corpus, comme référence, et à partir de là, avec des gens qui s'appellent les modernistes, les hadathiyoun, nous allons donner à ces versets des interprétations qui font beaucoup plus dans la complaisance avec l'Occident que dans un esprit qui vise à plaire à Dieu.
Approfondissons un peu plus notre compréhension de ces textes, Kamal Shakat, de ces deux hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Alors, dans le livre de Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hamad, le prophète alayhi salatu wasalam parle d'une fitnatun amya un samma. Et dans ce hadith qu'on trouve dans le musnad de Abu Dawud et Ahmad, on parle de fitnatu duhayma, la tada'u ahadan min hadihi l'ummati illa latamathu latmatan. Donc c'est ça, à peu près, tout le monde sera touché.
Tout le monde sera touché, de près ou de loin, ne serait-ce que sur le plan émotionnel.
Dans un verset, comme Shekhat, dans un autre hadith, on parle d'une fitna qui entrera dans tous les foyers musulmans.
Oui.
Est-ce que c'est de la même chose dont on parle ?
Pratiquement, puisque nous subissons tous, ou nous subirons, je ne sais pas si nous y sommes, moi je pense que nous y sommes. Que nous la vivons, mais avec.
Mais une fitna qui entre dans tous les foyers musulmans, certains ont pensé que ça pourrait être la télévision, d'autres ont.
Certains ont parlé même de la parabole, d'Internet, oui. Etc. Écoutez, ça peut être tout ça en même temps. Nous avons, dans ce même hadith, le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, nous parle d'une chose. La tada'u ahadan min hadihi l'ummati illa latamathu latamathan. Ne sera personne. Aucune personne de cette nation sans l'avoir frappé ou sans lui avoir infligé un coup. L'otma, c'est la gifle. Fa'idha qila nqadat tamadat. À chaque fois que certains penseraient que cette épreuve est passée, c'est là qu'elle prend encore plus d'ampleur. Ça veut dire qu'elle a une capacité de mutation terrible.
Mais qu'est-ce que c'est exactement,
ceci veut dire que nous serons nous serons dans une tourmente qui concerne beaucoup plus la vision que nous pourrions avoir du monde dans lequel nous vivons qu'une épreuve qui serait caractérisée par un ennemi qui viendrait de quelque part pour nous combattre. Et là, la conclusion est la suivante. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين. Ça veut dire que les gens feront des choses qui feront d'eux des mécréants. Là, quand on parle de kafir, nous sommes en train de le vivre. Des gens qui étaient avec nous dans les mosquées, qui ont embrassé d'autres religions, certains le bouddhisme.
Donc ça ne concerne pas Shirk al-Khafi, hein.
Non.
C'est la mécréance.
Déjà quand nous parlons de mécréance, il y a la mécréance qui est intimement liée à la foi, c'est-à-dire qu'elle est doctrinale ou doctrinaire. C'est le fait, par exemple, de renier l'existence de Dieu ou de changer carrément de dogme. Quelqu'un qui est musulman, qui va vers le christianisme. Et là, quand on parle de mécréance, nous le disons à juste titre, parce que ces gens-là disent que Dieu a des enfants. Donc, soyons sérieux, c'est plus qu'une atteinte à Dieu. Ça, c'est le kufr al-aqadi. Mais nous avons des mécréances d'ordre pratique. La tasiru ba'diya kuffaran. Ne redevenez pas après moi des mécréants, de sorte à ce que certains d'entre vous tuent les autres ou les décapitent. Le fait de tuer quelqu'un de manière injuste fait de la personne qui commet ce forfait une personne mécréante. Mais il ne s'agit pas de cette mécréance qui ferait des gens des athéistes. Iblis, alayhi min Allah ma yastahiq, est un mécréant. Pourtant, il n'a pas renié Dieu.
Oui.
Mieux encore, il a dit Fabi Izzatik, par ta gloire, par ta magnificence, je les tenterai tous, je les ferai dévier tous.
Dans un des versets, il dit Inni akhafullah rabbil alamin, carrément.
Bien sûr. Non, mais attendez, le fait qu'Iblis jure de cette manière, ça en dit long sur sa science, sur sa connaissance de Dieu. Et cela ne l'a pas empêché de tomber dans la mécréance. Là encore, ce qu'il faut comprendre. قال يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Il y a un autre hadith qui cite ce passage. Et quand vous citez ces hadiths dans les mosquées, les gens sont là, ils vous écoutent et vous êtes en train de parler de l'autre. Le matin, il est croyant et le soir, il est mécréant. Ça ne les concerne pas. Les gens ne se sentent pas concernés par ces hadiths. Et beaucoup de gens à l'écoute de ces hadiths, n'éprouvent aucune peur, aucune crainte. Parce que pour eux, non, ana rani fil jama, moi je suis dans la mosquée, moi je suis un musulman, je ne peux qu'aller au paradis. Là, pour comprendre ce qu'est une mécréance, ou pour comprendre ce qu'est un comportement de mécréant, pour être plus précis, vous avez par exemple une personne qui arrive vers un hôpital. Cette personne est dans la détresse la plus totale, et comme cela arrive très très souvent, vous trouverez un personnel hospitalier qui n'a pas envie de travailler. Et on va dire à la personne, non, nous n'avons pas les équipes nécessaires ici ou le matériel, il faut aller vers tel hôpital. Et on lui donne un bout de papier stipulant que cette personne doit être prise en charge à tel hôpital. Elle arrive à l'hôpital concerné, on fait tout pour lui apporter les soins nécessaires, mais la personne décède. Il faut que ce personnel hospitalier comprenne qu'ils ont sur les bras un mort dont ils devront répondre devant Dieu le jour de la résurrection. Alors, on n'a pas assisté une personne, ça a abouti à sa mort. Certains vous diraient, l'ajal haq, c'est son heure qui est arrivée. C'est vrai. Mais toi, tu n'as pas fait ton devoir. Et le jour de la résurrection, nous allons nous retrouver face à un registre qui mentionnera tout, qui nous mettra absolument aucune chose. Et beaucoup peut-être d'entre nous diront, j'espère que nous ne ferons pas partie de ces gens-là. وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Le moindre détail est mentionné dans ce registre. Sahifa. Bon, j'ai donné cet exemple. Je pourrais donner d'autres exemples hein, dans tous les domaines, hein, parce que honnêtement, dans notre pays, nous avons une administration qui est et nous avons déjà parlé, il y a des enseignants, des instituteurs, Bientôt, je sais pas moi, si on continue comme ça, nous aurons une mafia peut-être des imams, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous devons nous réformer. Quand nous lisons des passages de ce genre, يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا.
Pour quelle raison, Kamal Chakat?
Oui.
Justement, vous avez ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام narré par Nawas ibn Sam'an رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. Il rajoute إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
Oui.
Et nous avons cette histoire, Kamal Chakat, d'un imam dans la terre du Hijaz qui dit, qui le crie sur tous les toits, لا حاجة لنا بالمهدي في بلدنا عندنا خلافة صالحة.
Oui, c'est ça, c'est ça le problème.
Qui est devenu un lieu de
réjouissance.
De réjouissance.
Sin City. Malheureusement.
Mada in Saleh,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé aux musulmans, c'est-à-dire que
de visiter, de passer en pleurant.
Oui, Mada in Saleh, ou Abar Tamoud, etc. Ouais. On n'a pas le droit. C'est des terres de malédiction. On peut les traverser, mais il ne faut pas aller là-bas pour faire du tourisme. Donc, c'est moi ce qui m'intéresse dans toute cette histoire. Il dit, en parlant de cette épreuve qui est sournoise, elle fera que des gens croyants le matin deviennent mécréants le soir. Quand on parle ici de mécréance, ne pensez pas au premier lieu au fait de renier Dieu, à cette mécréance qui consiste à dire « je suis athée, je ne crois pas en Dieu ». Non, la mécréance peut être aussi pratique. Oui, je crois en Dieu, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de mal, mais qui ne s'empêchent pas d'aller au pèlerinage chaque année, de faire 3 ou 4 visites pieuses chaque année, et la chose leur donne plus ou moins bonne conscience, alors qu'ils sont les plus vils des personnes dans cette société qui est dans cette communauté qui est celle de l'islam. La chose, en tout cas, dans cette partie de l'histoire de l'humanité, la chose, en tout cas, connaîtra un problème tel que les gens se séparant en deux clans. Un clan qui serait celui de la foi, où il n'y a pas d'hypocrisie, et un autre où c'est l'hypocrisie qui règne en maître. Le problème, c'est que les gens se retrouveront dans l'obligation de choisir un camp. Et le problème, c'est que le clan de l'hypocrisie peut-être qu'il aura cette tendance à essayer de se donner du crédit ou bonne conscience en invoquant la religion et en disant ces gens-là, c'est ce que nous voyons en tout cas.
Parce que le clan de l'hypocrisie sévira jusqu'au temps du Dajjal,
puisqu'ils seront cachés dans
la mosquée du prophète.
Alors, nous avons un autre hadith qui dit qu'un temps viendra où la vie sera tellement dure pour le croyant que celui qui sera conforme ou qui sera fidèle à la tradition sera à l'image d'une personne qui tiendrait une braise dans la main. Vous imaginez? Donc c'est peut-être que c'est à cause de tout cela que les gens seront dans l'obligation de choisir des camps. Le camp de la foi et celui de l'hypocrisie, tout simplement. Quand ceci se produira, attendez alors l'antéchrist. Et là, je voudrais revenir à l'esprit de tous ces hadiths. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vous poser des questions sur l'ahlas. C'est quoi l'ahlas? En posant un maximum de questions pour avoir un maximum de détails. D'autres vous diront, et c'est quoi Duhayma? Pour ne pas faire partie des Duhayma. Mais alors que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de travailler sur soi-même avant même que ces épreuves ne viennent. Vous travaillez sur vous-même, vous travaillez aussi sur votre progéniture. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui passent qui accordent un temps au quotidien pour faire des prières pour leur progéniture? Vous savez, les gens pieux consacrent un moment dans la journée pour faire des choses, soit des actes de piété, soit des moments comme ça de recueillement et de supplique, de dua à Dieu subhanahu wa ta'ala, pour épargner à leur progéniture tous les maux dont nous sommes en train de parler. Beaucoup ne le font pas. Moi, ce que je vois, surtout chez les femmes, hein, dans notre pays, c'est ça le problème. Donc, quand vous lisez ces hadiths, quand vous lisez un hadith comme celui qui dit « La taqoumu sa'atu hatta yuqatila al-muslimun al-yahoud » L'heure dernière ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs. Cette guerre contre les juifs, normalement, fait partie des derniers signes de l'heure dernière. On dit que qu'à cette époque, les juifs seront les suppôts de l'antéchrist. Les musulmans qui formeront l'armée de Jésus, alayhi salam, donc vont devoir combattre ces juifs. Alors à ce moment-là, les arbres et les pierres diront « Ô musulmans, ô serviteurs de Dieu, voilà un juif qui se cache derrière moi, viens le tuer. » Et donc,
sauf le cèdre.
Certains parlent du cèdre, mais est-ce que nous sommes en train de parler de cet arbre?
Dans ces cas-là, pourquoi l'on plante? On a des campagnes interminables de plantation de cet arbre.
Oui.
Pourquoi? Quelle en est la raison?
Certains disent que c'est les Juifs qui sont derrière tout ça.
Certainement.
Oui. Mais ce qui importe, c'est que quand vous lisez ce hadith, ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les Juifs ou qu'il a envie de les exterminer. Ceci veut dire tout simplement que ces gens-là feront tellement de mal qu'un jour viendra où tout se liguera contre eux, autant les humains que la nature. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui, en lisant ce hadith, vous diront « Oui, donc, de toute manière, nous allons les exterminer, il n'y a pas de problème. » Mais qui te dit que tu feras partie du clan de Dieu? Qui te dit que tu feras partie des gens de bien à ce moment-là de l'histoire? Si Dieu te prêtait vie et que tu vivais justement ces instants terribles, c'est ça le problème.
La tentation est très grande, Kamal Chekat. Excusez-moi de vous interrompre.
Oui.
Vous venez de parler de la mécréance peut-être cachée ou petite mécréance.
Oui, subtile.
Voilà, on parle depuis le 7 octobre de cette action très bénéfique qui est le boycott des produits israéliens ou des produits qui aident et qui soutiennent l'armée israélienne. Et nous le voyons chez nous. Alors peut-être qu'on pourra citer une marque, il ne faut pas citer plus de trois fois. On voit Coca-Cola en Algérie.
On voit Zara en Algérie.
Voilà, on voit la lessive pour machine Ariel.
Oui. Alors le problème est là. Le problème, c'est que, bon, religion mise à part, dans la vie, vous avez affaire à des gens qu'on peut qualifier de riches parce qu'ils sont riches, ils sont bien nantis, ils ont des biens. Beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Il y en a d'autres qu'on peut aussi qualifier de riches, mais qui n'ont pas, justement, beaucoup de ressources. Et c'est généralement, pour les gens qui réfléchissent, les gens qui méditent, c'est cette richesse-là qui est souhaitée. Ce qui est bien, c'est que vous avez beaucoup de personnes très riches financièrement qui mettent à profit leur richesse pour devenir riches au niveau de l'âme. Et c'est ça donne ce qu'on appelle en langue arabe « l'ghaniyou shakir », le riche qui remercie Dieu pour ses bienfaits. Qui fait don de ce don Dieu lui a le prodigué, qui fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses autour
ou
de lui.
Ou cet autre, le
messager de Dieu, alors qu'il était pauvre, mais quand il donnait à l'image de celui qui donne à profusion sans craindre la pauvreté. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette logique, et c'est pour cela que chez les grands savants de l'islam, le riche qui remercie Dieu pour ses bienfaits est plus méritant que le pauvre qui se montre endurant face à l'adversité de la vie. Certains leur disent oui, mais pourquoi? On leur dit parce que le riche, avec ce que Dieu lui a donné, il a les moyens d'aller vers ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais s'il ne le fait pas, il ne le fait pas parce qu'il craint Dieu. Donc vous avez des gens riches matériellement, vous avez des gens riches humainement, vous avez des nouveaux riches. Le nouveau riche, c'est celui qui a peut-être vécu dans des conditions difficiles, mais à qui Dieu a donné, à un moment donné de sa vie, une certaine richesse qui a changé son quotidien, qui a changé sa vie et il a commencé donc à vivre dans l'aisance. Le problème dans nos pays, et l'Algérie fait partie justement de ces pays où il y a beaucoup de corruption et où nous avons beaucoup d'anciens pauvres, malheureusement. L'ancien pauvre, c'est le petit milliardaire qui est devenu milliardaire parce que peut-être parce qu'il vend du cannabis ou de la drogue, il est devenu riche parce qu'il est corrompu. Et ces anciens pauvres, justement, ce sont ceux qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas à autrui. Et dans cette histoire de la Palestine, moi, j'ai été outré de voir des vidéos de cette fameuse enseigne de vêtements qui n'a pas eu honte d'organiser une campagne publicitaire en se moquant pratiquement, mais non, en se moquant de manière ouverte des martyrs de Gaza.
Ou des enfants.
Oui, des enfants. C'est comme si on était là pour nous dire, comme si cette marque voulait nous dire « Je suis le suppôt de Satan, je suis contre le bien, je suis contre l'humanité et contre l'innocence ». Et voilà, c'est sur cette logique ou dans cette logique que je vends mes produits. Et alors que aux États-Unis, des milliers d'Américains sont allés jeter les vêtements de cette marque devant les magasins de cette enseigne, ici en Algérie, non loin d'Alger, du côté des pins maritimes, là où il y a un grand magasin de cette marque. Vous avez, mais alors les gens se ruent sur ces produits. Qu'est-ce que cela peut-il vouloir dire, honnêtement? On se désintéresse des autres? On ne fait pas cas des Palestiniens? Même si vous êtes contre la cause palestinienne, il y a un minimum de décence que vous auriez pu manifester. Et puis tous ces gens qui sont dans les fast-foods et les restaurants et qui consomment justement cette boisson qui est Coca-Cola. Vous savez, nous ne sommes pas... Le Coran nous parle de halal tayyib à deux ou trois reprises. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. Non seulement ce que nous mangeons doit être halal, mais il doit être pur. Et nous savons très très bien que dans l'industrie agroalimentaire, la majorité des produits qui nous sont proposés sont des produits qui, même s'ils sont halal, c'est-à-dire qu'on a le droit de consommer religieux d'un point de vue purement légal, sont dans la majorité des cas des produits qui ne sont pas purs dans la mesure où ils peuvent détériorer la santé. Trop de gras, trop de sucre, trop de sel, etc.
Oui.
Donc déjà, même s'il n'y avait pas cette histoire de Gaza, il y a énormément de produits qui sont le support financier de l'armée sioniste que nous ne devrions pas consommer, rien que pour préserver notre santé. Alors que dire quand on sait que ces produits-là donnent de l'argent à l'entité la plus criminelle dans l'histoire de l'humanité? Bon, on a maintenant dans cette tragédie de Gaza, nous commençons à voir les exactions des colons et de ces pseudo-militaires qui n'ont aucun honneur. Les armées ont toutes un code éthique et un code d'honneur qu'elles suivent. Cette pseudo-armée dite Tsahal n'a pas justement cela. Et elle est fidèle à ce qu'on connaît d'elle à travers le Coran et même à travers la Bible. Donc normalement, rien que par décence, par humanité, on ne devrait pas consommer ces produits. Et que dire quand on sait que ces produits sont en train d'alimenter, je ne sais pas, vous savez, le sionisme, c'est une atteinte à l'humanité,
oui,
carrément. Alors honnêtement, ceux qui font cela sont des gens qui méritent toute l'opprobre possible et imaginable du monde.
Que répondez-vous, Kamal Chakat, à ceux qui vous disent que le boycott n'aurait aucun résultat et puis le prophète, alayhi salam, n'a pas pratiqué le boycott?
Justement, c'est ce que nous voyons chez ces pseudo-salafistes, wahhabites, madkhali, qui sont dans cet islam dans cet islam judaïsé qui a été façonné par la juiverie internationale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiqué de boycott. Certes, on est venu dire à Omar ibn al-Khattab, voilà, on est venu se plaindre à Omar ibn al-Khattab de la cherté de la vie. Et on lui a dit, voilà, les produits deviennent très chers, etc. Il a dit, arkhisouha bit-tark. Il y a un comportement citoyen qui peut résoudre le problème. Vous avez des produits qui sont trop chers, ne les achetez pas, boycottez-les, tout simplement. Omar ibn al-Khattab réfléchissait à la manière qui lui a été léguée par le messager de Dieu, alayhi salatu salam, à savoir, Dieu t'a donné une cervelle, à toi de réfléchir, de voir ce qui est le mieux pour toi dans ta vie d'ici-bas. Et le messager de Dieu, alayhi salatu salam, l'a dit à ses compagnons, « Antum adra ou bien a'lamu bishu'uni dunyakum ». Donc celui qui vient vous dire non, ça n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas une barbe qui allait jusqu'au nombril. Kant al-qabda, comme on dit. Donc c'était l'équivalent des pratiquement quatre doigts, pas
main,
plus.
Oui.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas un qamis qui montait jusqu'au genou. Portez pas un mini qamis. Vous passez votre temps à nous parler, oui, nisouciak, je ne sais pas. On a pour table le porter parce qu'il n'avait pas assez de tissu, il était très grand. Le prophète, alayhi salatu wasalam, ne portait pas des Nike Air. Vous passez votre temps à nous dire...
Parce que ça n'existait
oui,
pas à ce moment-là, Kamal
oui, ou bien des Nike araignées, comme celles que portent les voleurs, généralement. Et donc, le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, n'avait pas instauré à Médine un festival, le festival de toutes les déviations. Ni même dans la région de Najd. Donc, le boycott, il est très très bon quand on sait que le produit en question peut justement porter préjudice autant aux musulmans qu'aux non-musulmans. Et puis, ces gens-là qui viennent vous dire non, non, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Pourquoi parlez-vous de boycott de certains produits qui sont utilisés par les chrétiennes par les chrétiens lors de leurs fêtes? Ne pas acheter de bûches, pourquoi acceptez-vous la chose comme ça et vous ne l'acceptez pas dans d'autres situations? Donc écoutez, le boycott est en train de faire beaucoup beaucoup de mal à ces grandes marques. C'est ce que nous voyons selon des rapports officiels qui sont publiés en Occident. Il est en train de mettre à mal toutes ces marques, tant sur le plan financier pur qu'au niveau des bourses, les indices sont à la baisse, et ça ne peut être que bénéfique pour nos frères à Gaza. Mais quand vous achetez une boisson qui n'est pas bonne pour votre santé, que vous la buvez, en parlant de Coca-Cola, je viens de la citer peut-être pour la deuxième fois, cette boisson que vous consommez, en consommant cette boisson, vous avez acheté ne serait-ce qu'un dixième de balle pour un criminel sioniste.
Donc,
mettez-le dans votre tête.
Donc, ceux qui consomment cette boisson sont en train de tuer des enfants palestiniens.
Tout simplement. Vous êtes en train de participer à un effort de guerre destiné à l'anéantissement des musulmans.
Et c'est certainement un acte de foi musulman, Kamal Chakat.
Oui, bien sûr.
C'est un acte de foi, consommer cette boisson.
C'est un acte de foi peut-être pour les judéo-chrétiens, parce qu'ils sont dans une logique de croisade. Mais ça ne l'est pas pour un musulman. Ça ne peut pas l'être non plus pour un être humain digne de porter ce titre.
Quand vous voyez, Kamal Chakat, les Occidentaux qui sont dans cette campagne de boycott, alors
oui,
que les nôtres se mettent en retrait...
Je vais répondre en arabe. Nahshem, jini l'hashma. Ouais. Je suis désolé. Et c'est ça qui fait la différence entre le plouk et celui qui est doté d'un savoir-vivre.
Donc la conclusion de ce hadith que vous avez traduit et expliqué, Kamal Chakat, pour l'émission d'aujourd'hui...
C'est que les signes avant-coureurs de l'heure dernière n'ont pas été cités pour que nous allions dans le détail du détail et essayer de comprendre à la manière d'un kabbaliste qui essaierait de décrypter, un corpus ou un écrit. Ces hadiths sont là pour nous mettre en garde contre des choses qui vont arriver ou qui se sont déjà produites ou qui sont déjà là, et ce, de manière très très sobre, sans verser dans la paranoïa, sans aller dans des délires, entre guillemets, excusez l'expression, qui sont ceux que nous voyons chez la majorité des gens.
Donc si nous voyons toutes ces fitnes, toutes ces épreuves de la fin des temps, l'Ahlas, Duhayma, ou Fitnat Sarra, attendez la sortie, l'apparition du Dajjal. Mais avant le Dajjal, il y a bien sûr l'arrivée du fils Mahdi al-Muntadhar, comment il a été cité dans un des manuscrits de Qumran.
Ibn Azim al-Udama.
On pourrait y revenir la semaine prochaine, Kamal Shekhar.
Inch'Allah, on essaiera.
Inch'Allah. Eh bien, merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres et beaucoup de réconfort à nos frères en Palestine, nos frères Gazaouis, qui ne sont pas les seuls à subir, alhamdoulilah, puisque
c'est
Dieu
clair.
Subhanahu est là et présent avec eux. Merci à vous. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur la page Au cœur de l'Islam sur x.com. Au revoir. Thank you.